Savoir quel a été votre parcours d'études en globalité, enfin vos études quoi.
D'accord. Alors, moi, j'ai fait un bac sciences techniques de la gestion, donc un bac technologique à l'époque, c'était en 2008. Et ensuite, j'ai commencé une fac de droit jusqu'en licence. J'ai fait pas mal de musique à l'époque, et ensuite, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait une pause sur les études, et puis j'ai repris les études de journalisme un an après. Et à la suite, et donc j'ai fait des études de journalisme à l'ESJ Paris. Voilà. Un master en presse écrite.
Ok, vous pouvez aller sur la deuxième question, hein. Allez-y.
Bah c'est un peu la même que la première, du coup, j'ai
Ah,
passé à la troisième.
allez-y.
Comment avez-vous été recruté dans Lire le magazine littéraire et dans Quinzaine? Alors, en fait, j'ai fait un stage en fin d'études à l'époque au magazine littéraire. Qui était donc le magazine concurrent au magazine Lire, en fait. Et j'ai fait mon stage de 6 mois à la fin de mes études. Et donc, ça s'est très bien passé. Et je suis resté ensuite en tant que chroniqueur régulier dans ce magazine. Ce qui m'a permis également de développer un peu dans d'autres magazines à côté de ça.
D'accord.
Et ensuite, oui, pardon, c'est-à-dire qu'ensuite, il y a eu un changement, donc c'est devenu le nouveau magazine littéraire, et ensuite, Lire a racheté le magazine littéraire, Lire, le concurrent, a racheté le magazine littéraire, en fait, ce qui a fait une fusion des deux, et donc maintenant, je me retrouve à Lire magazine littéraire. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été 3 magazines différents dans lesquels je me suis retrouvé. Vous avez... C'est clair ou...
Oui.
Question. Comment est rémunéré votre travail?
Alors moi je suis payé au feuillet hein, dans les différentes revues. Je suis payé au feuillet, c'est-à-dire environ 80 € le feuillet. Ah, voilà, c'est ça en fait. Un feuillet c'est environ une demi-page. En fait, je suis payé à l'article, en gros à la place des articles que j'écris. Voilà, c'est ça.
D'accord.
Vous avez sauté une question, non? Il n'y en avait pas une que j'ai vue avant.
Exercez-vous.
Ah oui, c'est vrai.
Allez-y.
Est-ce que vous exercez aujourd'hui le métier de votre rêve?
Oui, bien sûr, oui, c'est le métier de moi, mes rêves, hein. Lire des romans à longueur de journée, enquêter sur le milieu de l'édition aussi. Oui, il n'y a pas mieux pour moi comme métier que lire des livres et d'être rémunéré là-dessus. Oui.
Les élèves vont être d'accord,
Ou d'en
évidemment.
écrire.
Vous avez tous envie de passer votre journée à lire, n'est-ce pas, hein, les élèves?
Oui.
Je vous taquine un peu, mais.
Bien évidemment.
Allez-y, on vous écoute, monsieur Guillon, pour la suite.
Quels sont vos espoirs professionnels pour demain?
Mes espoirs professionnels pour demain, eh ben, être rédacteur en chef, par exemple, pourquoi pas? Ouais.
C'est pour monter en grade, en fait, hein, pour leur expliquer un
Ouais,
peu.
espoir professionnel, bah oui, c'est ça. Ou comme ça, comme maintenant, ça me va très bien. Hein, mais si ça peut évoluer un peu, c'est bien aussi. Ouais. C'est un marché assez incertain, donc bon.
Alors peut-être moi je rajoute une question. Vous avez un statut de pigiste ou de permanent dans les rédactions dans lesquelles vous travaillez?
J'ai un statut de pigiste en fait. Et
D'accord.
vous avez mentionné également Quinzaine dans
Oui.
lequel j'écrivais et dans lequel j'ai écrit l'article. Alors je n'y ai écrit plus depuis quelques mois. Hein, c'est de manière intermittente que j'y ai écrit en fait. Hein, mais vous m'avez posé la question tout à l'heure comment je suis arrivé dans Quinzaine. C'est la directrice qui m'a appelé un jour pour écrire dans sa revue. Voilà, tout simplement. Et j'avais laissé un CV il y a longtemps quand j'étais étudiant en journalisme et j'ai été rappelé par la suite.
D'accord. Faut-il une qualité ou un talent particulier pour exercer le métier de journaliste?
Oh ben, le lieu commun dit qu'il faut être curieux. C'est ça. Curiosité, ouais, plutôt de la curiosité, oui. Oui. Que ce soit un penchant naturel, à toujours vouloir approfondir les choses. Ouais. Et ouais, curiosité.
Qu'est-ce qui vous plaît le moins dans votre métier?
Oh, l'incertitude, c'est pas vraiment un métier très sécurisant, voilà. C'est la rançon du fait que ce soit un métier passion, c'est que ce soit un métier qui soit assez bohème, disons. Hein. On n'est jamais très sûr que le mois suivant, vous voyez, soit, au bout d'un moment, on prend la certitude, mais comme il n'y a pas de contrat, si vous voulez, comme on me commande papier après papier, au début, c'était un petit peu déstabilisant de se dire, est-ce que le mois suivant, on va continuer à me commander des papiers? Donc, au bout d'un moment, on prend confiance en soi, on se dit, bon, bah, si ça marche toujours, ça va continuer, c'est bon.
Et au, voilà. au bout de combien de temps vous avez eu cette, vous vous êtes senti rassuré au bout de combien d'années ou de mois de pratique professionnelle?
Au bout de, alors là ça fait trois ans et demi, quatre ans
que je fais ce travail. Bon là je commence à être rassuré.
Ouais.
Ça va. Au bout d'un an et demi, mais parce qu'il y a eu des, au début il y a eu des perçages un petit peu à vide, donc c'était un peu difficile, qui ont duré 2 mois, et puis au moment où je retrouvais, on me rappelait, au moment où je m'y attendais plus, voilà, c'était un peu ça, mais maintenant je sais que bon, ça va.
D'accord.
Je m'en, plus trop de soucis.
Allez-y pour la question suivante.
Quelles sont les tâches que vous effectuez au cours d'une journée ou d'une semaine type?
Quelles sont les tâches, voilà. Les tâches que j'effectue au cours d'une journée ou d'une, ben, je peux commencer par, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je dois éplucher les catalogues, appeler les maisons d'édition, me renseigner vraiment sur les sorties qui auront lieu dans quelques mois. Donc, parfois 3 mois à l'avance parce qu'on doit, comment dire, on prévoit les magazines, c'est un magazine mensuel, donc il faut s'informer très à l'avance de la sortie des livres. Donc il faut appeler même pas les services presse, mais les éditeurs parfois directement pour savoir un peu ce qui se fait, avoir quelques feuilles. Donc c'est de me documenter sur ce qui va sortir en fait dans les mois suivants. Je passe une heure par jour, quelque chose comme ça là-dessus. Ensuite, 4 heures de lecture, 5 heures de lecture, parfois 6, ça dépend des moments. Ensuite, je peux passer des coups de fil pour des interviews. Je fais beaucoup d'interviews également. Pour des enquêtes, hein, c'est-à-dire des interviews pour des enquêtes, comme celle que vous pouvez voir, où j'ai interviewé beaucoup de personnes. Là, par exemple, aujourd'hui, je me suis sur une autre enquête sur les agents. Vous voyez, ben, tout à l'heure, j'ai interviewé un agent étranger, par exemple, un agent allemand, voilà, en anglais. Donc, interview, enfin, ça dépend des jours, c'est compliqué de répondre. Mais en tout cas, bon, lecture, interview, 5 heures de lecture minimum. C'est ce qui rythme, c'est la colonne vertébrale de la journée, c'est la lecture. C'est ce qui rythmera la lecture, la journée.
Alors du coup, peut-être je rebondis pour les élèves. Je leur avais demandé de deviner qui était le prof dont le père était agent littéraire dans le lycée. Ils ne l'ont pas trouvé. Donc il s'agissait de votre prof d'EPS, Monsieur Goujon, dont le père est agent littéraire. Il s'appelle Michel Goujon et il est agent littéraire. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Question suivante. C'était pas mon père à moi, pas du tout.
C'était l'enquête.
Oui, c'était ça, mais devinette enquête, je crois. Parce qu'à distance, l'enquête n'est pas facile, mais... On en est à... Qu'est-ce qui vous pèle... C'est ça, Monsieur Guillon ?
Oui, c'est ça.
Je ne la dis pas jusqu'au bout pour que vous ayez la primeur de la question.
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans votre métier ?
Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le fait de lire, tout simplement, le fait d'écrire, le fait de découvrir des auteurs nouveaux. Voilà, des jeunes auteurs, découvrir des talents prometteurs et donner le papier de l'impulsion sur un auteur qui me semble un bon auteur. C'est de défendre mes convictions, sur sentir vraiment quelque chose qui préfigure une œuvre chez un auteur. Voilà, c'est de découvrir. C'est ce qui me plaît le plus, c'est de découvrir. Quand on tient un nouveau roman, c'est quelque chose d'encore assez brut, quelque chose d'assez pur encore dans l'écriture d'un premier roman. Voilà, c'est ce qui me plaît, c'est de lire des premiers romans.
Alors si je peux rebondir peut-être, ça veut dire que vous n'allez pas forcément chroniquer, recenser des livres d'auteurs déjà connus? Vous le faites quand même. Ou comment ça se passe?
Si, je le fais également, oui, parce que c'est-à-dire qu'après c'est une question de place. Les premiers romans, par exemple là, j'ai chroniqué un premier roman qui est super, Thomas Houssin, Soleil de juin, qui est super, mais disons que les premiers romans, on a très peu de place. Donc il y a un tel nombre de pages dans un magazine, par exemple là je prends le cas de lire magazine littéraire, on a une place limitée, donc c'est vrai que si je vais traiter Pierre Lemaître, je vais avoir une double page, mais si je vais traiter un premier roman aussi génial, aussi prometteur soit-il, ça sera toujours une petite brève. Donc voilà.
D'accord.
Donc je suis obligé de traiter, si vous voulez, si je veux vivre un moment, je ne vais pas faire que des premiers romans.
Oui, oui. Mais ça reste le cœur de la vocation, quelque part, quoi.
Ça reste le cœur de la vocation, oui.
Oui. Allez-y, Monsieur Guillon, on vous écoute.
Un conseil que vous pourriez donner à un jeune qui veut être journaliste?
Un conseil à donner, lire beaucoup de livres. Lire beaucoup de livres, de Simenon, ouais, c'est pas mal, parce que c'est une écriture qui forme bien à l'écriture journalistique, je trouve, par sa brièveté. Lire beaucoup de romans, je sais pas, s'informer. Quel autre conseil? Si vous voulez être journaliste littéraire, vous pouvez passer par la Sorbonne en premier lieu, faire des études de lettres ou aller en école de journaliste. Enfin, moi, si vous voulez, j'ai un parcours qui est pas vraiment celui qu'on voit, qui est le plus courant, si vous voulez. Donc, ceux qui sont critiques, en général, sont passés par des études littéraires plutôt que des études journalistiques. Mais bon, lire beaucoup, en tout cas. Si c'est pour la critique littéraire, lire beaucoup de livres et s'intéresser à l'actualité littéraire. Et pourquoi pas faire un blog, par exemple. Voilà, c'est ouvrir un blog avec des copains. Voilà, essayer déjà de... Il y a cette possibilité aujourd'hui d'exercer le métier de journaliste, en fait, en étant blogueur. Ouais.
Quelle a été votre motivation pour exercer ce métier?
Ma motivation, moi, c'est que j'écris, en fait. Hein, ça a été de... J'écrivais un peu dans mon coin depuis un moment. Et bon, je voulais un peu me rapprocher, peut-être... je sais pas par calcul, mais oui, je voulais me rapprocher un petit peu du monde littéraire. Je voulais me donner un rythme de lecture, un important rythme de lecture, et je voulais découvrir qui étaient les auteurs contemporains. Et donc, je me suis dit, c'est en les lisant professionnellement, avec une conscience vraiment, que j'allais en découvrir le plus. Voilà, je voulais savoir un petit peu, je voulais m'informer de ce qui se passait aujourd'hui à travers le regard des écrivains. J'ai répondu à votre question.
Oui, je pense, oui. Oui.
Très bien. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées durant votre parcours professionnel?
Alors, les difficultés, il y a celle d'une traversée du désert, oui, au début, qui a duré quelques mois. Ouais, c'est pas du tout sécurisant. Au début, il y a eu ça. Quoi d'autre? Difficulté Non, bah c'est tout, hein, depuis... ça me vient pas à l'esprit, comme ça.
D'accord. Quelle est votre fréquence d'écriture d'art?
J'en écris environ un par jour. Oui, un par jour, c'est-à-dire... parfois un livre par jour que je vais lire ou écrire un article dessus, mais c'est ça, un article par jour, parfois même plus, parfois moins, mais en moyenne je dirais un par jour ou un tous les deux jours. Mais c'est pas que des articles, vous voyez, c'est pas que des articles de critique, hein. Je fais autre chose également, donc bon, c'est sûr, je vais pas faire une enquête par jour, mais bon, je fais plein de types d'articles, donc il y a des interviews, il y a des... Non, un par jour, c'est ça.
Ok. Est-ce qu'on passe à un autre intervieweur, peut-être, pour les différentes rubriques, s'il y a d'autres gens qui veulent poser des questions? Vous l'avez très bien fait, M. Guillon. Hein. C'est
merci
juste pour...
Merci à vous.
C'est pas de vous flatter. Est-ce qu'on a une volontaire ou un autre volontaire?
Moi, je vais bien.
Alors, allez-y, on vous écoute. On passe sur la rubrique à propos de l'article, en particulier sur les agents littéraires.
Oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cet article sur les agents littéraires?
Alors, ce qui m'a donné cette envie, c'est que il y a donc. Alors, je vais essayer de pas répondre à la question suivante. Ce qui m'a donné envie, c'est de savoir si les agents littéraires étaient indispensables ou non. C'est-à-dire ils étaient les défenseurs des écrivains, comme ils sont présentés, comme ils se présentent eux-mêmes, s'ils étaient là pour défendre les droits des écrivains, qui ne se font pas assez bien payer par leur éditeur, qui ont par exemple. Si un auteur a un agent
et qu'il trouve qu'il n'est pas assez bien payé, l'agent va chercher chez un autre éditeur un endroit où son auteur sera mieux payé. Donc voilà, s'ils sont les avocats des écrivains ou ils sont un suppôt du libéralisme ou s'ils sont simplement un parasite qui s'est greffé dans la chaîne du livre, si c'est clair. Voilà, je voulais savoir vraiment ce que c'était en général que l'agent en France. Est-ce que l'agent, c'est, on est dans un système en France où, disons, un système éditorial où il n'y avait pas d'agent, voilà, et je voulais savoir s'il pouvait s'intégrer aussi. Et alors, là, je suis resté sur la question d'avant.
Oui, et alors, donc, on va passer à la suivante, on vous écoute.
Que pensez-vous de l'évolution qu'il y a eu au fil du temps avec les agents ?
Alors, l'évolution qu'il y a eu au fil du temps, comme je l'explique dans l'enquête, en premier paragraphe, même il me semble, même dans l'introduction, bon, il y a eu plusieurs tentatives hein, depuis même le 19e siècle d'introduction d'agents en France, à l'image des États-Unis, à l'image des pays anglo-saxons, où il y a systématiquement des agents. En France, ce n'est pas le cas, comme en Allemagne. Donc, pendant longtemps, ça a été un peu quelque chose d'un peu honteux d'avoir un agent, c'est-à-dire que les quelques écrivains qui avaient un agent ne s'en vantaient pas en général, parce qu'il était mal vu de montrer qu'on avait un intérêt financier en écrivant. Voilà, c'était tout simplement ça. Alors que maintenant, on commence à voir la chose différemment, c'est-à-dire, ben non, c'est simplement que les auteurs se professionnalisent et veulent se consacrer à leur tâche d'écriture et donc prennent un agent pour laisser toutes les formalités, parce que écrivain, c'est pas que juste écrire des livres. C'est aussi beaucoup de choses à côté qui sont paralittéraires, voire qui n'ont rien à voir avec l'écriture et qui saoulent les écrivains. Et donc les agents prennent toutes ces tâches-là. Et je pense que les agents vont s'implanter de plus en plus. C'est déjà le cas depuis que j'ai écrit mon article. Il y a encore je ne sais pas combien d'agences qui ont été créées. Il y a de plus en plus d'agents. Les agents se spécialisent. Il y a aujourd'hui en France des agentes, par exemple, qui sont des agentes féministes. Par exemple, ce sont des agentes qui s'occupent d'auteurs féministes. Voilà. Je pense que ça va aller dans ce sens où ils vont se spécialiser de plus en plus. Par exemple, en Angleterre, alors en Angleterre, c'est un peu notre modèle, c'est-à-dire sur le plan des agents. Voilà. On suit un petit peu le même cheminement que dans les pays anglo-saxons, l'Angleterre et les États-Unis. Je ne sais pas si je suis clair encore, mais... Donc là-bas, il y a des agents, par exemple, pour les personnes de telle minorité, les personnes qui sont de telle origine, les personnes qui sont de telle différence sexuelle ou genrée, ou voilà. Et peut-être qu'en France, il va y avoir de plus en plus d'agents, voire certainement, qui vont se spécialiser dans un type d'auteur, dans une spécificité d'auteur, ou dans un domaine d'écriture, ou quelque chose comme ça, voilà. Donc je pense que agent est peut-être un métier d'avenir, bien qu'il soit difficile de se rétribuer sur des ventes de livres déjà souvent bien faibles.
Comment avez-vous fait pour recueillir vos témoignages ?
Alors, bien, je suis comme ça, enfin, très souvent, quand je connais pas un domaine, ben, je vais passer par le syndicat existant, en fait, je vais appeler le syndicat des agents et je vais prendre rendez-vous avec le directeur du syndicat. Et là, il s'agissait de Laure Péchet, qui est également agent et qui a bien voulu prendre le temps de parler avec moi et de m'expliquer les tendances, les différentes tendances chez les agents. Donc cette personne m'a expliqué, m'a mis en relation avec des agents, donc j'ai eu une liste d'agents, j'ai choisi avec lesquels je voulais parler, et en général, ils sont en quête de légitimité, toujours les agents, donc quand on peut faire des articles qui sont dans leur sens, parce qu'il y a eu des articles qui traitaient les agents à l'époque de parasites, qui étaient très contre les agents, aujourd'hui ça change, donc ils sont toujours en quête de légitimité, donc quand je les ai appelés, c'est vrai qu'ils n'ont pas mis beaucoup de temps à répondre et à bien vouloir répondre à mon enquête qui allait dans leur sens en fait. Enfin au départ non, je suis parti avec cette enquête, je ne savais pas vraiment dans quelle direction j'allais, non. Mais eux m'ont convaincu plutôt que c'était une bonne chose. Voilà. Comment je les ai contactés? Ben, en passant par le syndicat.
Ça vous a pris combien de temps de faire cet article ?
Oh, longtemps quand même. Hein. Ça a dû me prendre peut-être. Moi, je suis lent, hein, mais ça a dû me prendre
deux semaines, oui, pas à plein temps, hein, je faisais d'autres choses, mais deux semaines, parce qu'il y a beaucoup d'interviews hein, quand même dans ce article, il y a des livres que j'ai dû lire sur le sujet, enfin des petits livrets, enfin oui, non, deux semaines.
D'accord. Et peut-être je rajoute une question sur la durée des interviews, est-ce que vous donnez un temps maximum d'interview pour pas y passer votre vie, ou ça dépend des informations que vous avez, ça dépend de chaque fois?
Ouais, je devrais peut-être faire ça, c'est vrai, mais en général, non, je prends du temps pour les interviews.
D'accord.
Non, c'est vrai, non, si la personne a des choses à dire, je vais avoir tendance à en prendre trop que pas assez, voilà, à être, voilà, c'est ça, en fait, je vais, en général, je vais rester plus longtemps avec les personnes. Quitte à déborder, parce qu'en fait, plus on reste longtemps, et parfois on est sur un sujet, vous voyez, par exemple, là je suis sur les agents, mais en fait, ces agents m'ont donné d'autres idées. À force de discuter avec eux, ben, j'ai eu d'autres idées d'enquête. En fait, de cette enquête, quand vous faites une enquête, il y a d'autres idées d'enquête qui viennent. Non plus vous passez de temps en interview à discuter, plus la personne, vous êtes à l'aise, plus il y a des atomes crochus qui se créent, et plus vous allez avoir d'autres idées pour les interviews. Donc, vaut mieux parler beaucoup.
Pour les élèves, c'est ce qu'on peut appeler la sérendipité, c'est-à-dire le fait de découvrir des choses qu'on cherchait pas, de trouver des choses qu'on cherchait pas par le hasard.
Ah ben c'est très bien ça, vous apprenez quelque chose.
Un beau
chose.
Concept. C'est un concept américain à base, sérendipité, et on le traduit en français sérendipité.
Sérendipité. Et ouais. Alors vous qui travaillez dans le Robert, il y est dans le.
Oui. Ah oui, il est dedans, ouais. Ouais.
D'accord. Oh ben, je l'ai noté, super.
Oui, c'est utile pour... exact, c'est le contraire de l'algorithme, en fait. C'est comme quand on va en librairie et qu'on tombe sur des bouquins qu'on n'était pas venu pour chercher. C'est ce qu'on perd un peu avec tout le commerce en ligne et les algorithmes, des plateformes de streaming, etc.
Les algorithmes qui nous enferment dans une bulle informationnelle.
Oui, d'accord. Oui, qui nous catégorisent et du coup nous proposent toujours un peu les mêmes trucs. Ouais, ouais. C'est le fait de trouver quelque chose qu'on cherchait, mais qu'on ne cherchait pas précisément. Et bon, voilà, c'est la joie du hasard, quoi. Après, à votre tour, je ne sais plus qui parlait. C'était une demoiselle, mais je ne sais plus quelle demoiselle posait les questions.
Maglone.
Ah, c'était Mlle de Tolly. Allez-y, la suivante.
Y a-t-il des passages qui ont été censurés ?
Des passages censurés ?
De l'article.
Alors non, pas censurés, mais par contre, il est arrivé qu'un éditeur me dise, par exemple, ben ça, par contre, je vous le dis en off. Ça, je vous le dis, mais ça ne doit pas apparaître dans l'article. Vous voyez, donc par le journal, non. L'article a été publié comme tel. Pas une ligne n'a été changée, pas une virgule n'a été déplacée. Mais par contre, censuré, je ne sais pas, c'est de l'autocensure de la part des intervenants plutôt que de ma part. De ma part, en tout cas, de mon côté, il n'y a eu aucune censure. Voilà. On ne peut pas dire que quelqu'un qui dit, une source qui dit ne pas dire certaines choses, ce n'est pas vraiment de la censure.
Et ça arrive souvent des gens qui disent des choses en off ?
Oui, ouais. Ça arrive souvent. Et ce sont souvent des pistes intéressantes pour des nouveaux articles, d'ailleurs.
D'accord.
Ben, une de ces pistes intéressantes, oui, je ne sais pas, à un moment, par exemple, il y a Olivier Cohen qui intervient dedans, des éditions de l'Olivier, qui me parle des agents, des auteurs français qui ont des agents étrangers. Donc, pourquoi ? Alors, tout de suite, il m'a dit, bah, par contre, ça, je vous le dis, ça ne s'est pas encore dit. Alors, tout ça, alors, tout de suite, je me suis précipité à faire un article dessus. Voilà. Et en fait, voilà.
Oui, parce que dans ces cas-là, les personnes veulent peut-être... Enfin, c'est une question. Est-ce qu'elles donnent l'info, mais elles ne veulent pas qu'on sache que c'est elles qui ont donné l'info ?
Oui.
C'est plus sur la source, quoi. Ce n'est pas sur l'info en elle-même, qui n'est pas toujours hyper explosive, mais que ce ne soit pas...
Oui. C'est plutôt ça, ouais, il y en a par exemple une directrice de maison d'édition, même qui m'a dit qu'il a dit des choses assez cinglantes sur les agents, je crois que je l'ai édulcoré hein, d'ailleurs, ce truc-là, parce que bon, ça n'était pas forcément utile. À un moment, je parle d'une éditrice, une grande éditrice d'une maison d'édition, je crois, d'une grande maison d'édition, nous confie quelque chose, qu'elle ne travaille pas avec des agents, je ne sais plus pour quelle raison, mais elle était allée plus loin que ça, et elle a demandé à ce que je ne la nomme pas, en fait.
D'accord.
Donc là, c'était, je ne sais pas vraiment pourquoi, parce qu'elle était contre les agents et peut-être qu'elle ne voulait pas se mettre du monde à dos, ce que je peux tout à fait comprendre.
Oui, ouais. Allez-y.
Est-ce que vous pouvez donner votre avis dans un article ?
Ah ben, bien sûr que je peux donner mon avis dans un article. C'est le métier de la critique, c'est subjectif. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un avis dans un article, oui, dans une critique, ou par exemple, tenez là, il y a un article qui est sorti où est intervenu votre enseignante d'ailleurs. Hein, je sais pas si vous l'avez lu, Elodie, l'article.
Par exemple,
je donne mon avis sur un phénomène de livres qui sont confectionnés à l'école. Je dis que c'est bien, voilà. Mais en tant que critique. Je donne tout le temps mon avis, forcément. Je donne mon avis, alors qu'il se part d'arguments littéraires, d'arguments stylistiques, d'arguments. Mais au fond, c'est ma sensibilité qui parle et ma subjectivité. Et voilà, oui, donc je donne mon avis sur les livres. Mais bon, je dis pas j'aime ou j'aime pas. C'est au contraire pourquoi il gagnerait à être mieux connu ou pourquoi c'est une imposture, non, quand même pas, mais enfin, oui, je donne mon avis, oui, tout le temps. Tout le temps.
Et alors moi, je rajouterais une question pour comparer avec moi, la pratique de la critique littéraire que j'ai dans la revue Études. Souvent, on me dit, ce livre-là, on a envie de le chroniquer, ça peut être pour différentes raisons, ça peut être parce que ce sont des contributeurs de la revue, ça peut être parce que c'est des auteurs qui sont suivis par la revue depuis longtemps. Et c'est une commande en fait. On me dit il faut que tu chroniques ça. Et j'ai une autre part où moi je vais proposer. Ça marche pas à tous les coups, mais parfois ça marche. Et puis parfois c'est la rédac chef qui a repéré un nouveau titre et qui me le propose, mais sans obligation. Est-ce que vous avez le même genre de curseur quoi entre eux?
Bien sûr. Ben, là par exemple, je pense à Lire Magazine Littéraire. Bon, il y a un article sur un auteur, je ne serais pas forcément venu à ce genre de lecture, je ne sais même pas si je l'ai sous les yeux, bon, peu importe, qui est un collaborateur du journal. C'est vrai que je ne l'ai pas du tout proposé, je n'étais pas au courant de la sortie de ce livre, mais bon, voilà, il a fallu faire un article dessus. Donc, heureusement que je l'ai bien aimé, parce que si je ne l'avais pas aimé, il aurait fallu quand même l'aimer, je pense, parce que c'est un collaborateur du journal. Donc, il y a des critiques diplomatiques, évidemment. Il y a bien sûr des intérêts aussi, moi ça m'échappe un peu, mais bien sûr qu'il y a des commandes et ouais, ça c'est bien connu, ça a toujours été le cas, et voilà. Après, c'est vrai que je propose chaque mois, c'est à moi de proposer ma liste, mais parfois, c'est extrêmement frustrant, je propose une liste de livres et je reçois au retour une liste qui n'a rien à voir avec celle demandée. Alors dans ce cas, vous avez mes goûts en fait.
Oui.
Mince, à quoi cher. Bon, vous voyez, à des moments c'est comme ça, donc bon, il faut s'accrocher quoi. Et plus on a de poids, je pense, plus on passe de temps à faire des critiques et plus nos recommandations vont compter, hein. Après moi, bon, j'ai encore 31 ans, ce qui dans le milieu de la critique est encore, bon pour vous je suis peut-être un dinosaure, mais ce qui est encore assez jeune, donc peut-être qu'on file encore les trucs à faire assez diplomatiques, assez, voilà, le mois d'avant c'était Eric Emmanuel Schmitt qui sortait un roman, bon bah, il a fallu faire l'article sur le livre d'Eric Emmanuel Schmitt qui était un collaborateur du journal également.
Oui, on a l'impression qu'on donne aux jeunes, dans le sens nouvellement arrivés, contributeurs, justement certaines commandes que ceux qui sont là depuis plus longtemps n'ont pas forcément envie de faire. Il y a un peu ce côté, pas bizutage, mais bon. Et vous avez le droit de refuser, ça se fait ou pas?
Je ne l'ai jamais fait.
D'accord.
Refuser, même dans des moments où c'était vraiment très, très, très tendu. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, voilà, il y avait un hors-série qui était il y avait un hors-série qui était dans le magazine, et en même temps, on travaille sur les hors-séries et sur le magazine Le Mensuel. Donc en même temps, il y a des articles qui tombent, non, je ne vais pas dire non, parce que si on dit pas dire non, même s'il y a une quantité de travail astronomique, j'ai jamais dit non encore, en fait.
D'accord.
Quitte à travailler jour et nuit.
C'est la rançon du succès, on a envie de dire. Ah. Et puis c'est un investissement pour l'avenir en général, mais...
Ouais. Moi, ça me plaît, ouais. Donc, bon, je...
Et alors, il nous reste 4 petites questions. Est-ce qu'on a une nouvelle intervieweuse ou un nouvel intervieweur pour la fin? Suspense.
Moi, je veux bien.
Allez-y, on vous écoute.
Alors, quel est votre livre préféré, monsieur?
Oh, mon livre préféré, j'ai pensé à cette question tout à l'heure, et alors on me la pose et à chaque fois c'est un livre différent. Là, boum, à quoi je pense, à La vie de François de Romain Gardy, voilà. Peut-être que certains de votre classe l'ont déjà lu.
Moi, ma mère l'a déjà lu.
Ouais, bon, c'est oui, La vie devant toi, ouais. J'ai...
Déjà très bien.
Ouais, j'aime beaucoup.
D'accord. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur votre métier?
Une anecdote drôle, une anecdote triste, une anecdote...
plutôt humoristique, ça peut être un peu plus sympa.
Humoristique? Alors, je commençais mon métier au magazine littéraire et j'étais parti pour un stage... j'étais parti pour un reportage à Cabourg, au Grand Hôtel. Donc, c'était magnifique. J'étais dans une suite et je devais faire un article parce qu'il y avait un partenariat entre un événement sur Proust à Cabourg. En fait, Cabourg, c'était la ville où Proust allait faire aller en vacances, et il a écrit sur Cabourg, qui est devenu Balbec dans La Recherche. Enfin bref, et on me demande de faire un reportage là-dessus. Et mon patron de l'époque, Pierre Assouli, me dit vas-y, lâche-toi, tu vas voir, c'est un peu des imposteurs ces gens. Et donc je fais le reportage et je me rends compte qu'en fait les organisateurs connaissent pas Proust et que ce sont des gens qui il y a des subventions de la ville et il y a plein de petits fours de trucs, mais les gens n'en ont rien à faire de Proust. Et donc je me rends compte de ça et en fait c'est l'attraction de la ville, hein, Proust, vous voyez, à Cabourg c'est Proust, donc c'est un argument touristique en fait. Et donc je me rends compte qu'ils n'ont pas lu Proust. Et puis à un moment donc déjà, ça m'interpelle. Et il y a un concours de pâtisserie se fait en l'honneur de Proust. Alors, c'est-à-dire que c'est un concours de pâtisserie sur Proust. Alors, trouver une recette d'un gâteau qui vous évoque Proust, en fait. Donc, la personne a inventé un truc qui s'appelle le Paris Balbec, qui est à base d'iode, parce que Proust aimait la mer, de pommes, parce qu'un jour, Proust a mangé une pomme.
C'est le meilleur pâtissier en version Proust, quoi.
Et voilà, tout ce que Proust, alors là, j'ai exposé, et donc l'organisatrice du festival, qui n'avait pas lu visiblement Proust, se lève à un moment, donne un coup de fourchette, de cuillère sur son verre, et dit, voilà, un jour, le Paris Balbec dépassera en célébrité la Madeleine de Proust. Et alors là, j'ai eu un fou rire vraiment très long. On est très sûr d'elle-même dans son affirmation. La Madeleine de Proust, voilà. Bon, ben non, c'est le Paris Balbec. Voilà. Bon, ça a été une anecdote assez marrante. Et le reportage a été très drôle et j'ai pu me lâcher également dans le reportage.
Alors, je précise peut-être aussi pour les élèves que Pierre Assouline, c'est un spécialiste de Proust en plus. Hein. Il a beaucoup lu Proust.
Ouais, ouais.
Il a écrit une biographie de Proust, si je ne me trompe pas.
Sur Céline, mais il a écrit Céline. Également sur Proust. Ouais. Mais c'était... Ouais, Proust, ouais. Exactement, mais c'est Simenon, lui, hein, aussi.
Oui, c'est vrai, ouais. Et pour l'anecdote dans l'anecdote, à l'origine, dans le passage sur la Madeleine, Proust, il voulait parler d'une biscotte. Donc finalement, ça a changé.
Ouais.
Ça aurait été moins vendeur en termes de meilleur pâtissier du monde, mais voilà. Il nous reste deux questions, on vous écoute, pour l'avant-dernière.
Alors, c'est quoi votre pire souvenir lié à votre métier?
Le pire souvenir lié à mon métier. Alors oui, ça j'y ai pensé. Alors bon, je vais pas nommer du magazine, du journal, la revue, mais je devais sortir une de couverture. C'était mon premier éditorial que je sortais dans un journal. Et puis super, j'avais monté un truc, j'avais fait bosser un photographe. J'étais très content de moi. C'était un dossier super. Et je me rends compte en arrivant en kiosque, l'article n'était pas... L'éditorial avait disparu. Les photos que j'avais voulu mettre en couve avec le photographe avaient disparu et mettaient en avant un article écrit, disons, par un autre collaborateur du journal qui était plus ou moins dans le comité de direction, enfin voilà. Et en fait, mon article, qui a été des mois de travail, en fait, a été complètement saccagé. J'ai voulu avoir des réponses, j'ai appelé au téléphone pour demander pourquoi, en fait, pourquoi ces changements, pourquoi mes articles ont été mis en dernier alors que c'est moi qui ai coordonné le numéro, pourquoi les photos ont été supprimées et on a mis celle-là à la place, pourquoi, je n'ai pas eu de réponse à ces questions et voilà. Ça, c'est mon pire souvenir. Je suis venu sur place, j'avais voulu sonner au journal, enfin, j'étais dans une colère noire. Il y avait de quoi, ouais. Donc ça, c'est mon pire souvenir. Ouais.
D'accord. Et quel est votre... le meilleur, du coup?
Mon plus beau souvenir de journalisme... une autre anecdote. Je vais plutôt partir sur une autre anecdote. Là, il y a eu un hors-série sur Baudelaire que j'ai participé, qui va sortir là dans une semaine. Et je devais interviewer quelqu'un de très difficile à attraper, Jean-Louis Murat, qui avait fait le chanteur
de variété, peut-être que ça vous dit rien, qui devait faire à l'époque qui avait fait à l'époque un album sur Baudelaire, comme avait chanté Baudelaire, Léo Ferré avait chanté Baudelaire, et ben lui chantait Ferré et Baudelaire. Et donc pour l'attraper, ça a été très difficile parce qu'il habite dans en Auvergne, et donc pour c'est une star un peu qui veulent pas trop donner d'interviews, qui est assez ronchon, et donc pour l'attraper, ça a été très dur. J'ai dû appeler la mairie pour qu'ils aillent le chercher. Son agent ne répondait pas, son ex-femme ne répondait pas. Je suis même passé par ses amis, par tout le monde. J'ai appelé le maire de la ville, j'ai trouvé pour qu'il aille le chercher chez lui en lui apportant une lettre de ma part. Bon, finalement, j'ai réussi à l'avoir. Ça a été une interview très difficile pendant l'interview parce que, voilà, mais qu'est-ce que c'est que vos questions? Bon, c'est un mec un peu rock'n'roll, quoi. Qu'est-ce que vos questions à la con? Sur Baudelaire, et je pensais que ses réponses était complètement à côté de la plaque, et j'étais complètement désemparé, et en fait, je me suis rendu compte qu'en retranscrivant, c'était génial. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment une superbe interview, alors que j'avais, sur le moment, vous voyez, en le retranscrivant, parfois, on se rend compte que c'est quelque chose de complètement différent que ce qu'on pensait. Et donc, l'interview m'a beaucoup plu, voilà, à la fin. En fait, c'était le contraste entre le moment où on écrit l'article, le moment où on fait l'article et le moment où on voit l'article à la fin. Le contraste peut être énorme et c'est très plaisant à remarquer.
D'accord, ok, ouais, je vois.
Bah, merci beaucoup. En plus, nous, on va étudier Baudelaire en classe, donc on n'a aucune, aucune excuse. On va devoir lire le hors-série, là, on est obligé. Ok. Ben, on regardera ça avec attention, surtout cette interview, maintenant qu'on a l'anecdote qui va avec.
Ouais, c'est un peu cru hein, ce qu'il raconte sur Baudelaire. Ouais.
Je pense que...
Il désacralise la figure. Quoi.
Ça, oui, de toute façon, il y a beaucoup à désacraliser avec Baudelaire. Hein. Moi, je m'y appliquerai aussi un petit peu en cours. Hein. Vous êtes prévenus, je fais un trailer, les élèves. Mais bon, vous verrez ça en cours de français, pour ceux qui m'ont en français. Ben, merci beaucoup.
Bon courage à vous. C'était un honneur hein, de répondre à vos questions. Voilà.
Ben, c'était super sympa. On a appris beaucoup de choses. Je pense que les élèves, ça vous a plu, non?
Oui.
Ouais.
Oui.
Ils sont contents.
Oui, normalement, oui.
Ça a agrémenté notre journée de visio, qui est parfois un peu pénible. Hein. Vous avez bien compris que toute la journée c'est dur.
J'avais des gens un peu moins marrants.
Ben non, mais c'est surtout qu'on fait cours en visio toute la journée, donc au bout d'un moment, on fatigue, quoi. Je pense que tout le monde. Donc là, c'était super sympa. Merci encore.
Ben, bon courage. Hein.
Merci beaucoup.
Excellente journée à vous.
Merci beaucoup.
Merci. 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 Et les élèves, on se prend 5 minutes de pause. Ça vous va?
Oui.
Ok, c'est la folie.
Merci.
Et du coup, on se reconnecte à Écart. Ça marche?
Oui.
À tout de suite.
Oui.